Vous écoutez France Inter, il est 19h. Le journal, bonsoir Claire Chaudière.
Bonsoir, bonsoir à tous. Ne pas baisser la garde face à la remontée du Covid en Europe et en France. L'exécutif se mobilise à nouveau, fait passer des messages, même si le virus n'explose pas encore, dit-il. Et Emmanuel Macron annonce ce soir qu'il s'adressera aux Français mardi prochain à 20h. On y revient dans un instant avec Simon Le Baron. Dans le journal aussi, 3 ans de prison, dont un ferme pour Alexandre Benalla, l'ancien chargé de mission de l'Élysée. Plus que ce qui avait été requis. Le cri du jour de Greta Thunberg en marge de la COP26. Ces discussions sont un échec, dit-elle. On fera aussi le bilan de cette première semaine de discussion entre dirigeants du monde entier avec Célia qui irait. La pression migratoire et ses drames humains quotidiens. Vous entendrez la réaction du candidat écologiste Yannick Jadot. On sera à Lourdes où les évêques ont reconnu ce matin leur responsabilité. Une responsabilité systémique de l'Église sur le dossier des abus sexuels. Et puis on ira à Bercy pour le tennis avec Hugo Gaston qui ne cesse de surprendre et au théâtre avec Le Roi Lear. Enfin au téléphone sonne Frédéric ce soir.
Chasseur et anti-chasse, peut-on arriver à s'entendre? Une question sensible mais ouverte au débat. L'annonce de la mort hier soir d'un automobiliste de 67 ans touché par le tir d'un chasseur près de Rennes samedi relance la question de la sécurité près des zones de chasse. On attend vos questions au 01 45 24 7000 ou sur l'application France Inter, rubrique Réagir.
France Inter. La pandémie de Covid donc et ses indicateurs qui remontent jour après jour, en particulier en Europe, épicentre de la propagation du virus selon l'OMS, en cause la baisse des températures, très probablement la vaccination qui plafonne et le relâchement des gestes barrières. Toutes les régions sont touchées, redit ce soir Santé publique France. 9000 nouveaux cas encore hier. Les taux de positivité grimpent aussi et l'exécutif s'affiche mobilisé. Bonsoir Simon Le Baron.
Bonsoir.
Emmanuel Macron va même s'exprimer dans les prochain jour.
Mardi à 20h pour un point sur l'épidémie, mais pas seulement, insiste l'Élysée. Il parlera aussi de la relance économique et des réformes dans la lignée en fait de son allocution du 12 juillet. Autrement dit, ce ne sera pas une prise de parole 100% Covid qui rappellerait trop les heures les plus difficiles de la crise. Car l'exécutif tente de tenir sa ligne. D'un côté, piquer au vif, sans mauvais jeu de mots, les plus fragiles qui n'ont pas encore fait leur rappel vaccinal. C'est ce qu'a tenté de faire le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal cet après-midi dans une pharmacie parisienne.
Au niveau national, on est à 3,4 millions de Français qui ont eu leur rappel vaccinal. C'est un peu moins de 50% et donc il faut évidemment que ça progresse. Avec la vaccination, on a construit une muraille contre les formes graves du virus. Il ne faut pas que cette muraille se fissure.
Mais d'un autre côté, le gouvernement veille à ne pas dramatiser en rappelant que la situation est bien pire. Par exemple en Allemagne, comme l'a fait le Premier ministre Jean Castex à la sortie d'un service de réanimation ce matin à Montpellier.
Le taux d'incidence nationale est repassé au-dessus du seuil d'alerte, on est à 61 pour 100 000 habitants, c'est-à-dire plus 10% en une semaine, c'est pas une explosion. Mais enfin, ceci doit nécessiter notre vigilance la plus grande.
Et alors maintenant, comment tuer dans l'œuf cette reprise épidémique avant qu'elle devienne une cinquième vague? C'est la vraie question. Elle sera au cœur d'un conseil de défense sanitaire mardi matin, avant l'allocution du président donc. L'exécutif pourrait décider de conditionner le pass sanitaire au rappel vaccinal, voire d'élargir le public éligible à cette troisième dose.
Simon Le Baron du service politique de France Inter a noté que le Parlement autorise finalement, comme prévu, le pass sanitaire jusqu'à l'été prochain. Le vote final a eu lieu, les oppositions sont furieuses et accusent le pouvoir d'évacuer toute remise en cause de sa politique anti-Covid pendant la campagne présidentielle. Plus de 3 ans après le scandale qui avait éclaté autour d'Alexandre Benalla et qui avait rapidement pris une tournure politique à l'été 2018, la décision donc ce soir du tribunal, 3 ans de prison au total, dont un ferme, sous bracelet électronique en tout cas, pour l'ancien chargé de mission de l'Élysée, poursuivi pour violence lors d'une manifestation du 1er mai. C'est une vidéo sortie par nos confrères du Monde qui avaient lancé l'affaire. Rappelons que lors des 18 mois avec sursis avait été requis. Bonsoir Ariane Grissel.
Bonsoir.
Aujourd'hui, la présidente a tenu à la lecture du jugement des propos particulièrement sévères à l'encontre d'Alexandre Benalla.
Oui, Alexandre Benalla, un homme au sentiment de toute puissance, d'impunité, assène Isabelle Prévost-Desprez à plusieurs reprises lors de la lecture de son jugement. Le trentenaire, vêtements sombres, lunettes au verre fumé, reste stoïque à la barre face à cette déferlante de qualificatifs plus sévères les uns que les autres. Son argument selon lequel il a agi pour aider les policiers le 1er mai, une construction intellectuelle, juge la présidente. Il convient de constater très clairement que vos interventions n'étaient à aucun moment nécessaires. Ses explications sur le selfie avec une arme, absurde et irresponsable, ajoute-t-elle. Isabelle Prévost-Desprez souligne la gravité des faits au regard de la fonction qu'exerçait Alexandre Benalla à l'Élysée, son comportement qu'elle qualifie d'insupportable au corps social qui a pu nuire à l'image de la présidence de la République. Alors, cette peine de prison ferme, explique la présidente, c'est une façon justement de marquer cette gravité face à celui qui, dit-elle, en refusant d'admettre sa culpabilité, marque son indifférence à la loi. Alexandre Benalla purgera cette peine d'un an sous bracelet électronique au domicile de sa famille dans l'heure. Parti sans un mot à la presse, il n'a pas fait savoir à ce stade s'il comptait ou non faire appel de cette condamnation.
Ariane Grissel avec Gilles Gallinaro à la technique et puis l'actualité judiciaire ce soir. C'est aussi sur le dossier de l'énigmatique naufrage du Bugalet de Braise, la justice britannique qui vient de conclure à l'accident de pêche. La disparition du chalutier en 2004 avait fait 5 morts. Les familles des victimes espéraient que de nouveaux éléments pourraient surgir à l'occasion de cette procédure britannique.
19h06 sur France Inter, la suite du journal de Claire Chaudière.
À présent, écoutez la voix de la rue aujourd'hui pour mettre la pression sur les décideurs réunis dans le palais des congrès à Glasgow, où la COP26 se poursuit.
It is not a secret that COP26.
Ce n'est pas un secret que la COP26 est un échec. Beaucoup commencent à se demander ce qu'il faudrait pour que les personnes au pouvoir se réveillent. Mais soyons clairs, ils sont déjà réveillés. Ils savent exactement ce qu'ils font. Ce n'est plus une conférence sur le climat, c'est un festival greenwashing des pays du Nord. De longues semaines de célébration du faisons des affaires comme d'habitude et du bla bla bla. Certaines personnes pensent que nous sommes trop radicaux, mais ce sont les dirigeants qui sont radicaux. Croire que notre civilisation comme nous la connaissons peut survivre à une hausse des températures de 2,7 voire 3 degrés n'est pas seulement extrêmement radical, c'est de la pure folie. Nos leaders ne dirigent pas. C'est à ça que ressemble le leadership.
Voilà, vous l'entendiez, la jeune activiste Greta Thunberg, tout à l'heure dans la manifestation écossaise en marge de la COP, sont recueillis et traduits par Martin Troadec et Julie Pietri pour France Inter à Glasgow, une génération dont on va reparler dans un instant avec notre série Eco-Warriors, ces militants qui agissent à leur manière aux quatre coins de la planète. Mais d'abord, alors qu'on est à mi-chemin de cette COP, qu'il reste une semaine environ de discussion en Écosse, bonsoir Célia Kiré.
Bonsoir Claire.
On va faire avec vous un premier bilan de ce qui s'est passé ces 5 derniers jours. Pour le moment, d'intenses jeux de coalition, d'alliances sur différents dossiers avec à la clé des engagements sur le charbon, les énergies fossiles en général, le métal, le méthane, la forêt, les océans. Qu'est-ce qu'il faut retenir comme avancée qui ne soit pas en quelque sorte des redites de promesses déjà faites par le passé?
Oui, il y a tout de même des avancées assez positives. D'abord, un accord signé par une centaine de dirigeants pour stopper la déforestation d'ici à 2030. C'est la déclaration de Glasgow. Ces pays, la Russie, la République démocratique du Congo, le Brésil, représentent 85% des forêts dans le monde, ce n'est pas rien. Ensuite, un accord, vous le disiez, sur le méthane. C'est la première fois qu'autant de pays s'entendent pour réduire de 30% leurs émissions. Enfin et surtout, cette COP pourrait être celle de la sortie du charbon. Une quarantaine de pays s'engagent à ne plus en utiliser pour produire leur électricité. Et ce n'est pas négligeable. Et les plus gros financeurs du charbon, les États-Unis, la Chine, promettent d'arrêter leurs investissements à l'étranger dès 2023. Cela représente 15 milliards de dollars en moins pour le charbon. Et d'après l'ONU, tous ces engagements de cette semaine permettraient de réduire les émissions de CO2 de près de 10 gigatonnes par an, ce qui est déjà quasiment la moitié de l'effort nécessaire pour rester en dessous de 1,5 degré.
Mais il y a quand même de gros bémols.
Oui, parce que le diable est dans les détails. D'abord, les échéances de sortie du charbon 2030-2040 sont trop lointaines. Ensuite, parce que ces accords assez flous restent à appliquer. Exemple, la déforestation, le Brésil ne dit pas comment il va faire. Sur le charbon, les principaux utilisateurs, la Chine, l'Australie, l'Inde ne sont pas dans l'accord. Enfin, sur l'arrêt du financement des énergies fossiles à l'étranger, la France n'a pas signé l'engagement. Elle continuera donc, par exemple, à investir dans le pétrole jusqu'en 2025 ou dans le gaz jusqu'en 2035.
Et en fait, on n'est pas encore véritablement rentré dans le dur du sujet, hein, si on vous comprend bien.
Ouais, pour le moment, ces engagements à géométrie variable ne suffisent pas. Les négociations les plus dures auront lieu la semaine prochaine à Glasgow, notamment sur l'aide que réclament les pays du Sud, victimes du réchauffement, aux pays du Nord, les plus émetteurs de gaz à effet de serre.
Merci Célia Kiré pour toutes ces précisions et choses promises, choses dues. Toute cette semaine, nous mettons des histoires et des visages sur cette génération de jeunes combattants pour le climat. Dishara Ravi est indienne, elle a 23 ans, elle a été arrêtée récemment pour ses actions de soutien aux paysans indiens face à la libéralisation du secteur agricole. Son portrait est signé Valérie Crova.
Pour Disha, devenir activiste était une évidence dictée par son histoire familiale.
J'ai commencé à devenir une militante pour le climat parce que mes grands-parents ont dû faire face à la crise de l'eau quand j'étais très jeune. Je ne me rendais pas compte à l'époque que la crise climatique n'est pas seulement un problème d'avenir, ça se passe aussi aujourd'hui. Et je voulais m'assurer que d'autres personnes n'aient pas à en souffrir.
Ses grands-parents paysans sont confrontés à la baisse du niveau des eaux souterraines. Le dérèglement climatique en est la cause, les précipitations deviennent plus irrégulières et les périodes de sécheresse plus longues. Disha Ravi ne veut pas commenter son arrestation en février pour sédition et complot. Son affaire est toujours en cours d'instruction. Au juge qui l'avait interrogée, elle avait répondu « Je soutiens les paysans parce qu'ils sont notre futur ».
C'est un combat qui n'est pas seulement le mien, c'est un combat pour des milliers de personnes. Je me bats à leur côté, avec eux, pour eux, et je suis très honorée d'y participer.
Depuis Bangalore où elle vit, Disha Ravi suit la COP26, dont elle n'attend pas grand-chose.
Cette conférence sur le climat est réduite à un événement de relations publiques par les dirigeants mondiaux. Je ne m'attends pas à ce qu'ils agissent.
Parmi les autres combats que la jeune femme mène aujourd'hui, il y a les centrales à charbon, qui représentent près de 70% de la production d'électricité en Inde.
Et toujours à l'étranger, l'appel à l'aide en Chine de la famille de cette journaliste citoyenne et ancienne avocate à Shanghai qui avait alerté sur la situation à Wuhan au début de l'épidémie de Covid-19, condamnée à 4 ans de prison. Elle est en grève de la faim et ses jours seraient en danger. Correspondance à Pékin de Dominique André.
Zhang Jian mesure 1m77 et pèse moins de 40 kilos. Son frère a publié un message sur Twitter pour alerter la communauté internationale. Dans l'hiver froid qui arrive, écrit-il, je ne pense pas qu'elle puisse vivre longtemps. Si elle ne tient pas, j'espère que le monde se souviendra d'elle. L'avocate avait été arrêtée après avoir filmé des malades dans le couloir d'un hôpital surchargé début 2020 à Wuhan. Ces images rares avaient choqué et avaient donné la mesure du désespoir des habitants enfermés dans la ville où l'épidémie est apparue la première fois. Aujourd'hui, le ministère chinois des Affaires étrangères n'a pas donné de précision sur son état de santé. Pour le porte-parole, les appels à la libération sont de la manipulation politique anti-chinoise. Selon ses avocats, la journaliste citoyenne serait nourrie de force via une sonde nasale. Le cas de Zhang Jian s'ajoute à ceux de plusieurs journalistes chinois indépendants, emprisonnés pour avoir rendu compte de l'épidémie à Wuhan. Pékin, Dominique André, France Inter.
Et l'actualité, c'est aussi ce soir la Chambre des représentants aux États-Unis réunie autour des grands plans d'investissement de Joe Biden. 3 000 milliards de dépenses potentiellement engagées. Et puis l'étau qui se resserre en Éthiopie. 9 groupes de rebelles créent une alliance contre le gouvernement et menacent de marcher sur la capitale. Addis Abeba.
La pression migratoire toujours très vive aujourd'hui autour de Calais.
Et au total, plus de 850 migrants ont traversé illégalement la Manche vers les côtes anglaises avant-hier, indique Londres. Aujourd'hui, un nouveau record qui porte à 21 000 le nombre de personnes ayant emprunté cette voie maritime depuis janvier. Hier soir, l'un d'eux a été percuté par un train à Calais. Il en est mort. Un peu plus tôt, un homme avait trouvé la mort aussi en tentant la traversée. La situation prend une dimension politique en pleine campagne présidentielle et alors que deux militants continuent à Calais leur grève de la faim. Réaction lors d'un déplacement de campagne du candidat écologiste à la présidentielle, Yannick Jadot. La solution, dit-il, est européenne.
Personne ne va assumer ses responsabilités et ce sont des vies perdues parce qu'il y a beaucoup de réfugiés qui meurent, parce que les voies de passage sont de plus en plus difficiles et puis surtout beaucoup d'inhumanité, beaucoup de situations humaines absolument effroyables. Donc il faut cette politique migratoire européenne qui évidemment accueille en dignité les réfugiés et puis redonne de la coopération entre les pays. Parce que cette façon pour chacune et chacun de se renvoyer la responsabilité, c'est toujours des femmes, des hommes, des enfants qui en subissent de manière dramatique les conséquences.
Yannick Jadot au micro d'Antoine Cavaillé-Roux. Ils reconnaissent la responsabilité institutionnelle de l'Église dans les violences sexuelles subies par des milliers de victimes. Les 120 évêques sont réunis à Lourdes depuis mardi pour réfléchir aux réponses à apporter sur ce dossier. Et le président de la Conférence des évêques s'est exprimé à la mi-journée, un mois donc après la publication du rapport de la commission indépendante, la CIES. Ils vont continuer à discuter jusqu'à lundi, mais il y a donc déjà cette première prise de position qui est arrivée un peu plus tôt que prévu. Delphine Evenou à Lourdes.
C'est par un vote d'assentiment, un sondage interne en quelque sorte, que les évêques ont pris cette décision. Vote non pas unanime, mais massif. Le rapport Sauvé nécessitait une position forte, nette, catégorique, explique Mgr Éric de Moulin-Beaufort, le président de la Conférence des évêques de France.
Nous avons vérifié que nous étions bien tous d'accord pour reconnaître la dimension systémique de ces violences, au sens où elles n'ont pas été le fait simplement de quelques individus, mais qu'elles ont été rendues possibles par un contexte général. Des fonctionnements, des mentalités, des pratiques au sein de l'Église ont permis que ces faits existent et qu'ils se perpétuent, ou en empêcher qu'ils soient dénoncés et sanctionnés.
Quelles conséquences concrètes, juridiques notamment, tout cela reste à travailler, mais le geste est fait et fort. Le père Jean-Luc Souffeton, abusé à 15 ans et présent à Lourdes, en a les larmes aux yeux.
Ça nous a sonné, mais dans le bon sens, parce que c'était tellement ce qu'on attendait que même émotionnellement, c'était fort à accueillir, quoi, vraiment. Je pense que la première chose que nous, les victimes, nous avons dit aux évêques qu'on a croisés, c'est merci.
C'est une première étape essentielle qui est franchie, reconnaît aussi François Deveau, le cofondateur de la Parole Libérée, pourtant très critique envers l'institution. Cette responsabilité institutionnelle et systémique doit être actée officiellement lundi matin lors du vote solennel.
Delphine Evenou, c'est une décision qui va impacter de nombreux éleveurs. Les volailles de plein air françaises vont devoir passer l'hiver confinées en raison d'un risque lié à la grippe aviaire. Il faut éviter tout contact avec des oiseaux migrateurs. Le gouvernement espère éviter ainsi la répétition de l'épisode de l'an dernier. Allez, le tennis, et on suit toujours la révélation. Hugo Gaston, le Toulousain Hugo Gaston, dans le Masters 1000 de Paris-Bercy, la nouvelle coqueluche du tennis français qui a commencé à faire parler de lui il y a un an. Après avoir déclenché carrément un vent de folie hier soir, il va disputer dans quelques minutes un quart de finale face au Russe Medvedev. Bonsoir Guillaume Batin, vous êtes toujours sur place.
Claire.
Sauf que là, bon, c'est tout de même le numéro 2 mondial. Le Toulousain peut-il rééditer l'exploit?
Alors Hugo Gaston n'a jamais joué face à un adversaire aussi bien classé que Medvedev, mais on se souvient quand même encore de ce huitième de finale de Roland-Garros en octobre 2020 face à un joueur du top 5, c'était le numéro 3 à l'époque, Dominique Thiem, l'Autrichien. Hugo Gaston perd ce match, c'est vrai, mais il aura bataillé 3h32, 5-7 avant de céder 2-6, 6-3, 6-3, 4-6, 6-0, pas d'humiliation, un vrai combat dans lequel il utilise son arme favorite, l'amorti. Il entend 55, 40 lui donne un point direct, un geste parfaitement maîtrisé qui surprend encore ses adversaires et notamment deux Espagnols cette semaine, Carreño Busta, 17e mondial, Carlos Alcaraz, 35e mondial hier soir, qui souffre encore de maux de tête. L'autre arme du Toulousain, c'est le public parisien. Une vraie histoire d'amour passionnelle est née à Roland-Garros, elle continue ici et cette ambiance a contribué à chaque fois à déstabiliser ses adversaires. Cela va fragiliser, c'est sûr, Daniil Medvedev tout à l'heure, mais peut-être pas au point de le faire perdre face au 103e mondial, c'est le classement d'Hugo Gaston.
Guillaume Batin en direct de Bercy. On passe au théâtre. Jacques Weber de retour sur les planches dans Le Roi Lear, le chef-d'œuvre de Shakespeare. C'est au théâtre de la Porte Saint-Martin à Paris, mise en scène de Georges Lavaudan. Le comédien est impressionnant dans le rôle de cet homme de pouvoir qui sombre dans la folie. Stéphane Capron.
Jacques Weber a peu joué Shakespeare dans sa carrière. Il a attendu d'avoir l'âge du rôle pour se lancer dans l'aventure du Roi Lear.
C'est un rôle dont j'ai rêvé. C'est un tournant dans une vie. Je pense que c'est un des très grands chefs-d'œuvre de la culture occidentale, enfin, c'est évident.
Au début de la pièce, Lear impose son pouvoir. Il est robuste, majestueux dans son smoking, puis tout se délabre. Ses vêtements ressemblent à des haillons, sa chevelure ébouriffée se pare de fleurs. Il retombe en enfance. Jacques Weber est magistral dans la composition du personnage.
C'est un colosse au pied d'argile, comme beaucoup d'hommes de pouvoir. Ces grands personnages qui, à un moment, ont eu l'illusion, car le pouvoir n'est toujours qu'une illusion. Et de l'âge, et là, l'âge, c'est le grand naufrage. Quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, il vous rattrape. Et puis surtout, il y a ce problème de la filiation, de l'ingratitude des enfants par rapport à vous. À tous les niveaux, cet homme se dégrade et la pièce elle-même se détruit petit à petit. Son architecture se liquéfie et puis on tombe sur un monde où il n'y a plus rien.
La mise en scène de Georges Lavaudan, tout en simplicité, laisse exprimer la férocité du texte. L'autre rôle important de la pièce, celui de Gloucester, est interprété par François Martouret, lui aussi impérial.
Jacques Weber dans Le Roi Lear, spectacle France Inter au Théâtre de la Porte Saint-Martin à Paris. C'est jusqu'au 28 novembre, Frédéric Barrère.
C'était le journal de 19h de Claire Chaudière. Merci Claire. La météo dans un instant.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes pour hommes. Toutes naturelles, cachemire, fil d'Écosse, soie ou coton et maintenant en lin. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Bonsoir Sébastien Léas.
Bonsoir Frédéric, bonsoir à tous.
Une perturbation demain arrive par la Manche.
Oui, cette perturbation sera très peu active. Elle se traduira surtout par une importante couche nuageuse entre la Bretagne, la Normandie et les Hauts-de-France. Après une matinée ensoleillée, le ciel va aussi bien se voiler l'après-midi sur la région parisienne et les Pays de la Loire, devenant même laiteux. Le soleil sera plus durable entre le pourtour méditerranéen et les Alpes et entre les bords de la Garonne et le Poitou. La Corse verra des averses se développer demain. Et puis sur le reste du pays, la matinée sera souvent grise. L'après-midi, quelques éclaircies arriveront à se dessiner, mais les nuages sont encore nombreux, notamment près des Pyrénées et sur le nord-est. Pour les températures prévoyées 0 à 5 degrés pour les minimales, 8 à 14 degrés pour les maximales, jusqu'à 19 degrés dans le sud-est.
Et pour dimanche, Sébastien ?
Eh bien, les averses vont devenir plus nombreuses sur la Corse avec également des orages. La perturbation nuageuse qui touchera le nord-ouest demain va glisser vers le nord de la Nouvelle-Aquitaine, le centre-val de Loire et le Grand Est. Le ciel va s'éclaircir entre les côtes de la Manche, les Pays de la Loire, le bassin parisien et les Hauts-de-France. Et puis entre le Languedoc-Roussillon, la Provence et les Alpes, le soleil sera toujours généreux. Attention tout de même autour de la Méditerranée, le vent va devenir de plus en plus violent autour du golfe du Lion et sur la Balagne.
C'est Bastien Léas de Météo France.